Europe 1.
Ondelatte raconte.
Christophe Ondelatte.
Je vous raconte aujourd'hui l'histoire d'un terrible tueur qui s'appelle Jean-Paul Lecomte. Il a sévi au début des années 2000 dans le département de la Somme, au point qu'on l'a appelé le tueur de la Somme. Pour le débrief, je ferai appel à l'avocate de la famille de l'une des victimes, maître Didier Seban, interview que vous retrouverez en podcast dans un deuxième épisode. Attention, j'ai choisi de vous raconter cette histoire d'une manière inhabituelle. Cela pourrait vous énerver, mais c'est pour la bonne cause. J'ai écrit cette histoire avec Okis, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Pour une fois, je vais tout vous raconter dans l'ordre. De la naissance du tueur jusqu'à sa condamnation. Pour vous montrer qu'un assassin, ça se fabrique. Alors c'est une démarche qui va peut-être vous agacer, peut-être même vous révolter. Vous m'en voudrez, vous me détesterez, vous m'engueulerez. Vous direz peut-être, Ondelatte cherche des excuses à un type qui ne les mérite pas. Je m'en fiche de tout ça. Je veux vous faire comprendre qu'on ne devient pas un assassin par hasard. Il y a toujours des responsables, et des responsables qui ne sont jamais condamnés. À la fin de cette histoire, le tueur Jean-Paul Lecomte prend 2 fois perpétuité. Il les mérite, je ne dirai pas l'inverse. Mais j'espère que vous partagerez avec moi l'idée qu'il aurait aussi mérité une autre vie. Alors, voilà commence la vie de Jean-Paul Lecomte. Il naît en 1966, et 4 mois après sa naissance, ses parents le refilent à sa mémé. Pas le temps ni l'envie de s'en occuper. Mais il garde les allocs, bien sûr. Et pour le reste, mémé se débrouille.
Ben voilà. Un jour, ils l'ont porté chez moi, et ils l'ont jamais repris.
Mémé est d'origine polonaise. Elle est arrivée en France en 1939 et toute sa vie, elle a ramassé des betteraves. Elle élève Jean-Paul dans sa ferme de Méholt dans la Somme, comme si c'était son propre fils. Elle le couvre trop, peut-être. Elle lui passe tous ses caprices. Mais c'est pour compenser. C'est pour rattraper le malheur.
Dis, Mémé, pourquoi est-ce qu'ils m'ont abandonné, mes parents ?
Il la pose souvent, cette question. Le petit Jean-Paul. Une fois, son père et sa mère le reprennent pour la journée. Ils l'emmènent se promener au bord de la mer. Jean-Paul leur en veut tellement, il souffre tellement de leur désamour, qu'à un moment donné, il se jette d'une falaise, pour le plaisir de leur faire peur, pour leur dire « Regardez comme je souffre !» Et puis le soir, les parents le ramènent chez mémé. À l'école, au début, ça va. Mais très vite, Jean-Paul devient la terreur des cours de récréation. Il alpague les copains, il les traîne dans un coin où on ne les voit pas et pim, pam, poum, il leur balance des mornifles. Le tueur pose ses marques. Les années passent et sa mère essaye de le reprendre. Mais c'est trop tard. Il est trop bien avec Pépé et Mémé. Sa génitrice, il n'en veut pas. Elle l'a trahi. Il va le lui faire payer. Ou plutôt, il va le faire payer aux femmes, comme elle. En 1989, Jean-Paul Lecomte a 23 ans et il vit toujours chez Pépé et Mémé. Et c'est là qu'il commence à dégoiser, vraiment. Ça se passe à Albert, la ville d'à côté. Il arrête des femmes dans la rue. « Vous avez l'heure, s'il vous plaît ?» Et là, il sort un tournevis, il les traîne dans un coin, il les mangane si nécessaire, et il les force à lui pratiquer une fellation. Il peut faire ça 3 fois par jour. 3 femmes qu'il viole toutes dans la même journée. La machine à violer est lancée. La machine à tuer est en cours de construction. Une fois, il va sonner à la porte d'une maison, au hasard. C'est une petite fille de 8 ans, Amélie, qui lui ouvre.
« Bonjour. Dis, je suis le papa d'une de tes amies. Elle comprend pas l'exercice pour l'école. Est-ce que tu peux venir l'aider à la maison ? Ouais, il y en a pour 10 minutes maximum, hein. Puis après, je te ramène, d'accord ?»
Et elle dit oui. Mais une fois les portières verrouillées, il se dévoile tout de suite.
« On va pas aller chez ton ami. » Parce qu'en fait, tu vas jouer avec mon Gigi.
Amélie est terrorisée. Elle ne veut pas. Alors il la cogne. Et il la force à lui faire une fellation. Une fois son affaire terminée, il déverrouille les portières.
Allez, maintenant, tu dégages.
Amélie sort de la voiture comme un zombie. Et lui, il démarre. Il va faire un demi-tour nerveux. Et il repasse devant elle à pleine vitesse. 8 ans. Un automobiliste la voit seule sur le bord de la route. Il l'emmène sur le champ à la gendarmerie. Ses parents portent plainte. Une enquête est ouverte. Le jeune Jean-Paul Lecomte est arrêté 2 semaines plus tard en Alsace. Pour le viol d'Amélie et pour tous les viols qu'il a commis. On le présente à ses victimes derrière une glace sans teint.
C'est lui, je le reconnais.
Elles le reconnaissent toutes, mais lui n'avouera jamais. Pour cette série de viols et d'agressions, il est condamné à 17 ans de prison. 8 ans plus tard, il demande une libération conditionnelle. Sur le papier, il y a droit. Mais l'expert psychiatre qui le rencontre écrit « La personnalité de Jean-Paul Lecomte est d'un point de vue sexuel éminemment perverse. L'ensemble de ses passages à l'acte obéit à la même dynamique pulsionnelle et instinctuelle. L'absence chez lui de toute forme de remords et de culpabilité le conduirait à une répétition fréquente des actes. La récidive en matière sexuelle semble inévitable, et donc conditionnelle refusée. Mais 5 ans plus tard, après 13 années de prison, et grâce aux remises de peine automatiques, il retrouve la liberté. Et naturellement, il rentre chez Mémé. Bah, il n'a personne d'autre. Le département de la Somme est frappé par une série de meurtres de femmes. Ça commence en janvier avec l'affaire Élodie Kulik. Élodie est une jeune employée de banque de 24 ans. Et le matin du 11 janvier 2002, à Péronne, on retrouve sa voiture, une Peugeot 106, dans un fossé. Vide. Son corps à moitié calciné est découvert 2 jours plus tard, à 5 kilomètres des lieux de l'accident. Elle a été violée et étranglée. L'enquête révèle qu'Élodie a appelé les pompiers juste après l'accident. Et cet appel a été enregistré. Il dure 26 secondes. Et il est terrifiant. On entend la jeune femme pousser des cris déchirants, des hurlements de terreur. Et au fond, des voix d'hommes qui disent « Ça va aller, ça va aller !» Au moins 2 hommes avec des accents du coin, des accents picards. L'enquête ne trouve d'emblée aucune piste. L'idée et que sans doute, elle a eu un accident et que ceux qui étaient censés lui porter secours l'ont violée et l'ont tuée. À moins que l'accident n'ait été provoqué volontairement. Six mois plus tard, le 8 juillet, à Buire-sur-l'Ancre, toujours dans la Somme, on découvre le corps d'une jeune femme dans un champ, derrière un ballot de paille. Elle a le pantalon baissé et le pull et le soutien-gorge remontés.
Je la reconnais, cette fille. C'est pas Patricia Leclerc ? Celle qu'on nous a signalé sa disparition, là, il y a 2 jours. Ouais, c'est elle. 19 ans, putain, c'est elle.
Patricia a quitté son boulot dans un fast-food il y a 2 jours, vers 22h30. Elle était à vélo. Et ce soir-là, une automobiliste l'a vue pédaler comme une dératée sur le bord de la route. Ça l'a un peu surprise, une fille toute seule en pleine nuit. Et cette femme a aussi vu une voiture.
Elle était arrêtée un peu plus loin.
Vous pourriez la décrire, cette voiture ?
Ben, pas trop, hein. Il faisait nuit, mais c'était une grosse cylindrée, ça j'en suis sûr. Sombre, peut-être noir ou gris foncé, je dirais.
Et y avait-il quelqu'un dedans ?
Oui. Oui, il y avait quelqu'un. Je peux pas vous dire plus, je l'ai vu de dos.
Une seule personne ?
Non, peut-être deux. Je suis pas sûr, il faisait nuit.
Et c'est à ce moment-là que dans la presse, et aussi dans la tête des gens, naît l'idée qu'on aurait affaire à un tueur en série. Les journalistes du coin l'appellent déjà le tueur de la Saône. Et oui, deux accidents, deux meurtres, deux jeunes femmes, et tout ça dans le même périmètre. On se dit que c'est forcément le même homme, ou les mêmes hommes. Les gendarmes ne sont pas loin de penser la même chose. Alors ils dressent la liste de tous les délinquants sexuels de la région. Ils les convoquent un par un. Qu'est-ce qu'ils faisaient le soir des deux crimes ? Est-ce qu'ils ont une voiture ? Et si oui, de quelle couleur et de quelle marque ? Est-ce qu'ils ont un accent picard, comme les tueurs d'Élodie Kulik ? Malheureusement, tous les zigotos ont un alibi. Rien à chercher de ce côté-là. Un mois et demi plus tard, à Villers-Bretonneux, c'est-à-dire à quelques kilomètres de l'endroit où est morte Patricia Leclerc, on retrouve le corps d'une troisième jeune femme, dans une zone industrielle, sous une camionnette.
Environ 18 ans, blonde, elle porte un jean et un gilet noir. Et a priori, elle a été égorgée. Hein. Bien reçue ?
L'une des veines de son cou a été tranchée net. Et cette gamine de 18 ans, en effet, les gendarmes lui donnent très vite un nom. Christelle Dubuisson, disparue la veille. Et de trois jeunes femmes assassinées en 8 mois, dans le même périmètre. Comment voulez-vous qu'on ne rapproche pas ces trois affaires ? Mais en vérité, à ce moment-là, les gendarmes ne retiennent pas du tout cette hypothèse d'un même homme pour les trois meurtres. Le premier meurtre, celui d'Élodie Kulik, est difficile à rapprocher des deux autres. Certes, tout s'est passé dans le même coin. Mais le corps d'Élodie a été carbonisé, et pas les deux autres. Et pourtant, quand on enterre la jeune Christelle Dubuisson, le père d'Élodie Kulik est là, et l'entourage de Patricia Leclerc aussi. Dans leur tête à tous, ces trois affaires sont liées. Forcément liés. Et pourtant. Le corps de Christelle a été retrouvé sous une camionnette, une Citroën Jumpy, une voiture volée. Il y a peut-être de l'ADN dans cette voiture.
Négatif, hein. Pas le moindre élément dans et sur la voiture. Hein. Pas de poils, pas de cheveux, pas d'empreinte digitale. Pas non plus de traces de transpiration, absolument rien du tout.
En revanche, sur le cadavre de Patricia Leclerc, le légiste trouve deux petites traces qui peuvent contenir de l'ADN.
Alors on a ici sur la culotte, vous voyez une toute petite tache de sang. C'est possiblement le sang de la victime, mais c'est pas certain. Et puis surtout, on a toujours sur la culotte, vous voyez là, une toute petite tache qui semble être du sperme. Et ça, c'est très intéressant. Donc, on va tout de suite envoyer tout ça au labo, hein.
Et bingo, le labo dégage un ADN.
C'est un ADN masculin, hein. Alors, on l'a passé au fichier des empreintes génétiques. Malheureusement, il matche avec aucun des ADN en stock.
D'accord. Est-ce qu'il matche avec l'ADN dégagé sur le corps d'Élodie Kulik ?
Non, il s'agit de deux ADN différents.
Un signe de plus que ces deux affaires n'ont peut-être rien à voir l'une avec l'autre. Les gendarmes reconvoquent tous les tordus du cul qu'ils avaient précédemment interrogés. Et il leur passe à tous un grand coton-tige dans la bouche pour prélever leur ADN. Et après, comme il y a un embouteillage dans les labos qui traitent des ADN, ça prend un peu de temps. 4 mois. Mais à la fin, les amis...
C'est bon, hein? On a un nom dans l'affaire Leclerc. Jean-Paul Lecomte.
Jean-Paul Lecomte. Excellente nouvelle, je vous remercie. Bon, les gars, on a un nom. Jean-Paul Lecomte. Donc, vous me cherchez tout ce que vous avez sur le bonhomme, hein? C'est parti. Le type a 36 ans. Il est sorti de prison 2 mois avant le meurtre de Patricia Leclerc. Une condamnation pour le viol d'une petite fille de 8 ans, Amélie. Vous vous souvenez d'Amélie? Dans cette affaire, il est resté 13 ans en tôle. Et aujourd'hui, il habite chez sa maman à quelques kilomètres de l'endroit où on a retrouvé le corps de Patricia. C'est d'ailleurs là qu'il est arrêté. Bon, en tout cas, il peut pas être l'assassin d'Élodie Kulik, hein, parce qu'il était en prison à ce moment-là. Donc ça confirme ce qu'on pense depuis le début, hein, c'est-à-dire que l'affaire Kulik est absolument pas liée aux deux autres. Eh oui, on le prête qu'aux riches. En attendant, voilà Lecomte en garde à vue à la gendarmerie. Vous faisiez quoi le 6 juillet, monsieur Lecomte, jour de la disparition de Patricia Leclerc? Je vous écoute. Oh, je vous écoute. Je me suis promené en voiture... Dans la campagne autour. Monsieur Lecomte, je vous informe que nous avons retrouvé votre ADN sur le corps de Patricia Leclerc. Vous avez une explication? Il faut répondre à ça, monsieur Lecomte. Je vous écoute, monsieur Lecomte. C'est faux. Ouais, c'est pas mon ADN. Je vous prends-tu, cette fille. Monsieur Lecomte, il y a une chance sur 5600 milliards que ce ne soit pas votre ADN. C'est forcément le vôtre, monsieur Lecomte, forcément.
Alors, il y a une erreur, quoi. Faites refaire vos analyses, je suis innocent.
C'est lui, c'est forcément lui. Le juge le met en examen pour le meurtre de Patricia Leclerc. Et Christelle Dubuisson, alors? Est-ce que c'est lui aussi?
Vous avez mon ADN dans cette affaire? Aussi?
Non, monsieur, non. Nous n'avons pas d'ADN.
Voilà. C'est pour moi et puis c'est tout.
La camionnette Jumpy, sous laquelle a été retrouvé le corps de Christelle, a été volée dans une entreprise et un employé a assisté au vol.
J'ai vu le gars arriver en mobylette, Peugeot 103, hein, vous voyez? J'ai vu le même bonhomme partir au volant du Jumpy, quoi.
Et vous savez ce qu'on a retrouvé chez les parents de Lecomte?
Une meule,
un Peugeot 103, justement. Et il en dit quoi, lui, de ça?
Il était en panne à cette époque-là, mon 103. Un problème de carbu.
On l'a retrouvé chez vous, monsieur Lecomte, il marche parfaitement bien.
Oui, c'est parce qu'il est réparé.
Ah bon? Et quand l'avez-vous réparé?
Je sais pas, moi, il y a un mois à peu près, en octobre.
Alors, monsieur Lecomte, comment expliquez-vous qu'un gendarme vous ait verbalisé le 17 août pour défaut d'assurance et absence de rétroviseur sur votre Peugeot 103?
Ça pouvait pas être ma mobylette, hein.
Celui-là, il ne va pas être facile à faire craquer. En attendant, les gendarmes ont maintenant la certitude que c'est bien lui qui a volé le Jumpy sous lequel on a retrouvé le corps de Christelle. Ils ont désossé son 103 et sur les roues, ils ont trouvé de la terre. Et cette terre colle parfaitement à celle de l'entreprise où la camionnette a été volée. Voilà donc Lecomte aussi mis en examen pour le meurtre de Christelle Dubuisson. À part ça, il y a un blême, un gros blême. Le labo a bien trouvé son ADN dans la culotte de Christelle.
mais la tache de sperme, ah ben c'est pas lui.
Tu vas pas le croire, le sperme, c'est celui de son père, figure-toi, Pierre Dubuisson. Oui, monsieur, la gamine a été violée par son père.
Bon, d'accord, d'accord. Mais ça change quoi?
Ben, ça change tout. Enfin, le corps a été découvert tout près de chez le papa. Il n'y a pas de raison de penser que l'ADN de Lecomte pèse plus lourd que l'ADN du père, non? Un point partout. Balle au centre.
Et voilà donc le père en garde à vue. Il met 24 heures à reconnaître que peut-être par un malheureux concours de circonstances, ses spermatozoïdes se sont retrouvés dans la culotte de sa fille. Rien de plus. Quoi qu'il en soit, il va falloir qu'il rende des comptes là-dessus. Même si on ne peut pas lui coller le meurtre de Christelle, il va falloir qu'il rende des comptes. Et je vous le dis dès maintenant, le père prendra 3 ans dont 2 avec sursis pour l'agression sexuelle contre sa fille. Quoi qu'il en soit, le juge a maintenant la certitude que Jean-Paul Lecomte a tué et Patricia Leclerc et Christelle Dubuisson. Alors il les renvoie devant la cour d'assises dans les 2 dossiers. Lecomte est d'abord jugé en janvier 2005 devant la cour d'assises d'Amiens pour le meurtre de Patricia Leclerc. Oh, son entrée dans le box fait sensation. Il se tourne vers les parents et il les regarde droit dans les yeux. Le salaud. Et après, il répète ce qu'il a dit pendant toute l'instruction.
C'est pas moi qui l'ai tué, cette fille. Alors vous avez peut-être mon ADN, hein. Mais c'est une erreur.
Le moment fort du procès, c'est quand sa mémé vient à la barre. Elle le soutient, Jean-Paul, jusqu'au bout. Et coûte que coûte.
Oh, moi je dis qu'il a jamais rien fait de mal. Jamais.
Monsieur le greffier, je vous demande de faire écouter à madame l'enregistrement réalisé au parloir de la maison d'arrêt à l'occasion de l'une de ses visites à son petit-fils.
Et ça, c'est terrible pour Mémé. Parce que sur l'enregistrement effectué grâce à un micro caché dans le parloir, on entend clairement Jean-Paul Lecomte dire qu'il a tué Patricia Leclerc. Et on entend la Mémé qui marque un silence. Et après, on l'entend dire...
Mais pourquoi tu t'en es pris une fille comme elle? Une fille abandonnée par ses parents? Pourquoi t'as tué une malheureuse comme elle?
C'est terrible ça pour Mémé. Elle le défendait parce que c'était son petit-fils, parce qu'il n'avait qu'elle, parce qu'elle l'aime, envers et contre tout. Jean-Paul Lecomte est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 22 ans. Il fait appel et il est rejugé en mars 2007. Il sait qu'avec l'enregistrement, il ne peut plus nier. Alors dès le premier jour, il avoue enfin avoir tué Patricia Leclerc, mais pas l'avoir violée.
Bah, j'ai remarqué une jeune femme à vélo. Je l'ai doublé, et je lui ai fait signe de s'arrêter. Elle a pas voulu. Alors j'ai bloqué son guidon, puis bon, elle est tombée, et alors elle s'est cognée la tête par terre. Elle était inconsciente. Et là, bah, je sais pas ce qui m'a pris, je l'ai mise à l'avant de ma voiture, et puis j'ai jeté le vélo sur le bas-côté, et j'ai démarré, quoi, pour voir si c'était possible de lui faire des attouchements. J'en ai profité un peu, quoi. J'ai soulevé son pull, j'ai caressé sa poitrine, j'ai déboutonné son pantalon, et après je me suis masturbé. Et puis après j'ai paniqué, quoi. Je me suis vu de nouveau en prison, alors je l'ai sorti dehors. J'ai attrapé son cou à 2 mains, et puis, ben, je l'ai étranglé.
Pourquoi? Est-ce que vous vous êtes acharné à coups de poing sur votre victime, monsieur?
Ben, j'ai perdu les pédales.
Pourquoi est-ce que vous n'avez pas raconté tout ça plus tôt, monsieur Lecomte?
Ouais, c'était trop lourd, quoi. C'est des choses graves, tout ça. C'est des atrocités. Et puis,
Je voulais protéger ma mémé. Aujourd'hui qu'elle est morte, c'est pas pareil.
Et à la fin, il est à nouveau condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, mais sans peine de sûreté.
L'année d'après, en novembre 2008, Jean-Paul Lecomte comparaît devant la cour d'assises de la Somme pour le meurtre de Christelle Dubuisson. Dans ce dossier, vous vous souvenez qu'il n'y a pas d'ADN et qu'il n'a jamais avoué. Et il ne va pas falloir compter sur lui aujourd'hui.
Écoutez, pour Patricia Leclerc, j'ai avoué au procès. Moi, quand j'ai fait quelque chose, je le reconnais. Et là, c'est pas moi. C'est pas moi qui ai tué cette fille. Et puis quand même, je rappelle que son père, il couche avec elle. Alors, hein?
Le père, justement, Pierre Dubuisson, on le fait venir là-bas. Et lui aussi nie, figurez-vous, avoir violé sa fille malgré la présence de son sperme sur sa culotte. Décidément, à ce procès, il n'y a que des lâches. Vient ensuite le défilé des experts.
Je confirme ici que selon nos analyses, la Terre identifiée sous les garde-boue de sa mobilette, eh bien la même que celle du parking où stationnait la fourgonnette sous laquelle on a retrouvé le corps de la victime. Hein, il n'y a aucun doute là-dessus.
Un autre expert vient dire que dans la camionnette, certes il n'y avait pas d'ADN, mais on a identifié des fibres qui viennent des vêtements que Lecomte portait ce jour-là. Le président lui colle tout ça sous le nez. Il ne moufte pas, ça n'est pas lui. En fin de journée, les avocats de la famille de Christelle tentent un coup pour le faire craquer.
Je souhaiterais, si vous m'y autorisez, monsieur le président, que l'on fasse passer à l'accusé les clichés du corps de mademoiselle Dubuisson prise sur la scène de crime.
Le greffier fait passer à Lecomte les horribles clichés du cadavre de Christelle.
Regardez bien ces photos, monsieur Lecomte. C'est horrible, hein, n'est-ce pas? C'est horrible à regarder. Et c'est horrible à faire.
Ouais. Ouais, c'est horrible à faire.
Et là, on se dit, il a fait la moitié du chemin, il va aller au bout, il va avouer. Mais non.
C'est horrible à faire. Mais j'ai rien fait.
Il reste dans le déni jusqu'au bout. Et ce faisant, il oblige sa pauvre avocate, Maître Makarevitch, à plaider l'acquittement. À la fin, le président demande à Lecomte s'il a quelque chose à ajouter.
Rien à ajouter.
Après une heure de délibéré seulement, Jean-Paul Lecomte est condamné à sa deuxième perpétuité. Il accueille le verdict sans broncher. Il songe à faire appel, et puis finalement, il fait marche arrière. Depuis novembre 2017, Jean-Paul Lecomte a effectué la moitié de sa peine, c'est-à-dire 15 ans. Il peut donc prétendre à une libération conditionnelle. Mais compte tenu de son profil, il est probable qu'elle ne lui soit jamais accordée.
Cette histoire, Christophe Ondelatte vous propose de la débriefer avec un invité dans un podcast d'ores et déjà disponible sur votre application.